BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine qui débute. On va filer sur les marchés dans un instant, mais auparavant, on compulse toute l'actualité éco. Et ce matin, avec Raphaël Couder.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une ce matin, le projet de loi Industrie verte présenté en Conseil des ministres. Le gouvernement dévoile aujourd'hui les détails de ce texte qui vise à accélérer la réindustrialisation au programme réduction des délais d'implantation d'usines et également de nouveaux crédits d'impôt pour les projets industriels bas carbone. Pour connaître tous les détails de ce projet de loi, restez avec nous sur BFM Business. Interview exclusive à suivre de Bruno Le Maire sur BFM Business dès midi dans 90 minutes. Business. Les syndicats de retour à Matignon pour la première fois depuis la promulgation de la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit en fin d'après-midi et demain les principales organisations syndicales et elle se dit à l'écoute de leurs priorités. Outre les retraites, la question des salaires devrait également être au centre des discussions. Et à ce propos, un autre rendez-vous à ne pas manquer sur BFM Business. Edwige Chevrillon recevra ce soir à 19h30 Marc Ferracci, député Renaissance et pilote du groupe de travail du projet de loi sur le partage de la valeur. Dans l'actualité des entreprises, Vodafone va supprimer 11 000 emplois dans les trois prochaines années. L'opérateur britannique licencie un peu plus de 10% de ses effectifs. Un plan de restructuration massif décidé par la nouvelle directrice générale, arrivée il y a seulement quelques mois à la tête du groupe, Margarita Della Valle, juge que la performance de Vodafone n'a pas été assez bonne et que le groupe, tout simplement, doit changer. La dette de Casino, bientôt examinée par un conciliateur, c'est ce qu'indique ce matin le patron d'Invivo, le groupe qui détient Teract et qui est sur les rangs pour reprendre l'activité française du distributeur. Un conciliateur sera donc nommé le 22 mai prochain, ce qui permettra d'avoir une meilleure visibilité sur l'étendue de la dette de Casino, estime Thierry Blandinière, le directeur général d'Invivo. Et puis une acquisition importante pour Edenred, le groupe va racheter la plateforme Reward Gateway pour 1,3 milliard d'euros. Entreprise surtout présente au Royaume-Uni et en Australie, qui est elle aussi spécialiste des avantages pour les salariés. Elle va permettre à Edenred de se positionner comme leader dans deux nouveaux pays. Elle lui apporte également une présence prometteuse sur le marché américain.
Merci beaucoup Raphaël, chaque heure pour lire l'actualité économique. Et nous tout de suite, on file sur les marchés.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on retrouve Sarah Thirion depuis TPI Cap. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Un indice avec qui se cherche.
Qui se cherche. Effectivement, il n'y a pas de grande rotation ce matin. On a des secteurs en Europe qui évoluent tous peu ou prou autour de l'équilibre et plutôt moins que plus. On a évidemment, enfin, on cherche une histoire. Alors, on a eu ce matin des indicateurs macroéconomiques en Chine qui, bien évidemment, ont confirmé que le moteur de la reprise était bien la consommation, avec des ventes au détail qui ont progressé à deux chiffres, à plus de 18% en rythme annuel sur une base de comparaison assez facile, mais c'était finalement un peu moins bon que ce qu'attendait le consensus. En revanche, sur les autres agrégats, c'était partout un peu décevant, la production industrielle, les investissements en actifs fixes, l'investissement immobilier, le taux de chômage qui reste élevé, notamment chez les jeunes. Donc on voit bien que cette reprise est possible. On attend aussi évidemment les négociations, la poursuite des négociations sur le plafond de la dette aux États-Unis, des indicateurs US qui sont importants, les ventes au détail d'avril qui sortiront cet après-midi, la confiance des constructeurs immobiliers au mois de mai. Et donc autant d'indicateurs qui pour l'instant ne permettent pas de donner de catalyse additionnel au marché. Je vous rappelle que les trois grands piliers évidemment de la réalisation des indices larges, actions larges cette année, c'était la perspective d'un soft landing, sauf qu'on voit que le ralentissement est plutôt là, l'espoir d'une pause dans la normalisation de la Fed et de la BCE, et pour l'instant, il n'y a pas d'argument pour ces deux banques centrales pour contredire le mouvement. Alors, elles peuvent le faire dans des proportions beaucoup plus infimes, mais effectivement, on a toujours une inflation core qui est élevée dans ces deux géographies, et puis la reprise en Chine, qui pour le coup, effectivement, est assez atypique pour le moment. Donc, à moins que la Banque centrale chinoise n'annonce de grandes mesures de soutien à cette reprise, pour l'instant, le marché cale un peu.
Voilà donc pour quelques idées générales et puis un petit focus sur Bouygues.
Un petit focus sur Bouygues qui publiait ce matin son P1 avec un chiffre d'affaires qui progressait de 46%. Et bien évidemment, ce 46% témoignait essentiellement de l'intégration d'Equens, puisque la croissance organique sous-jacente n'était que de 4%. Toutes les divisions semblent avoir progressé, à l'exception de l'immobilier qui se trouvait encore en territoire évidemment négatif dans le contexte actuel. L'EBITDA progressait de 28%, soutenu essentiellement par Equens et Bouygues Télécom, alors que les autres branches affichait plutôt une décroissance de l'EBITDA. L'EBIT est ressorti positif, mais grâce à Equens. Et au chapitre des nouvelles qui ont moins convaincu les marchés et qui expliquent peut-être la baisse de ce matin, un free cash flow négatif à cause des investissements dans les télécoms. Or, le groupe ne convainc pas vraiment en fait sur ses recrutements sur la période. 27 000 nouveaux clients pour le parc forfait mobile hors M2M et 46 000 pour le parc total fixe. Et puis, d'autre part, effectivement, on a évidemment un résultat net qui reste une perte, enfin une perte nette qui ploie effectivement sous le coup de la dette, puisque la dette nette a été portée à quasiment 9 D'accord. milliards suite à l'acquisition d'Equens. Des guidance qui sont réitérées, ça ne suffit pas pour convaincre. Donc un titre qui baisse ce matin.
Merci beaucoup Sarah. Sarah Thirion, TPI Cap, qui nous accompagne chaque mardi pour jeter un œil sur le marché. 2 heures après l'ouverture. Très bonne journée Sarah, le CAC qui grignote 0,05%.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin d'Irina Topasseri. Bonjour Irina.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour AXA IM. On ne parle quasiment plus que de ce plafond de la dette, des incertitudes, des 88 milliards de dollars qui restent dans le porte-monnaie de Joe Biden pour terminer le mois. Alors qu'il y a quelques semaines encore, la première fois que je l'ai vu émerger dans quelques notes et que j'ai posé la question sur le plateau, tout le monde m'a dit « Enfin Cédric, on a bien d'autres choses à traiter que cette vieille lune ». Non, c'est désormais l'attente. À chaque fois qu'il y a une réunion, il y en a encore une aujourd'hui, etc.
C'est un sujet, mais c'est un sujet qu'on arrive généralement à bien anticiper. Donc, généralement, il y a quand même des papiers de recherche là-dessus. Si ce n'est qu'effectivement, il y a eu un petit à-coup sur les recettes. Hein, donc, ça, ce qui a fait que les dates se sont précipitées. Donc, effectivement, début de l'été semble être le démarrage des difficultés du Trésor américain. Bon, le Trésor américain a intérêt d'accélérer.
De mettre la pression,
ouais. Mais oui, tout à fait, parce qu'ils ont tout. On comprend bien que dans ce processus, c'est somme toute un processus de négociation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une minorité républicaine au Congrès américain qui fait une sorte de hijack, comment dire, attrape ce sujet très fortement et qui met la pression sur les démocrates. Il faut savoir que les démocrates, typiquement, ont ce ressenti, ce goût amer derrière les deux dernières plafonds de la dette, parce qu'on a, c'est pas nouveau, hein, comme vous le dites, ouais, hein, on a déjà connu. Mais en fait, ils sont restés avec ce goût amer qu'à chaque fois, ils ont dû concéder à des baisses de dépenses qui, dans leur analyse, peut-être très justifiée, cela a affecté fortement l'économie. Donc, ils ne sont pas prêts à faire ce pas. Et puis, les Républicains disent qu'ils ne vont pas lâcher tant qu'il n'y a pas des baisses de dépenses. Donc, en fait, on est dans un dialogue de sourds.
Ouais, malgré tout, un défaut, même mineur, même un petit incident sur les États-Unis, ce n'est pas pareil qu'ailleurs dans le monde.
Non, mais bien sûr.
Et d'ailleurs, tout le monde s'est un petit peu étonné de la légèreté avec laquelle Donald Trump a encouragé, c'était sur CNN, ses partisans, entre guillemets, à provoquer ce défaut. Quels sont vos scénarios, vous, chez AXA IM ?
Alors, je pense qu'effectivement, au-delà des choses politiques qui peuvent être véhiculées par l'un ou par l'autre, provoquer le débat est une bonne chose néanmoins. Je m'explique. D'abord, parce que j'avais regardé les prévisions officielles, en fait, des États-Unis. Unis sur où la dette arrivera. Alors, quand on fait des projections, et ça, c'est à fin de chaque décennie, j'avais regardé, c'est 1, 2, 3 décennies, donc on a mis des
ça va loin, quoi.
Voilà, ça va loin. Et bien, quand on fait ce genre de projections, ils font quelque chose de très lisse qui n'intègre pas des crises, hein, donc pas des Covid, pas des guerres, pas rien du tout. Hein. Ils mettent une projection de déficit à 5,5 de PIB en moyenne, ce qui fait que la dette qui était là, en fin d'année dernière 97 points de PIB arrive à 108 points de PIB en 2030, 137 dix ans plus tard, 200 points de PIB. Donc voilà, donc le sujet doit être sur la table. Oui. Donc on ne peut pas le mettre de côté. Il y a quelque chose à faire. Cela dit, voilà, le défaut est une situation absolument. Enfin, je pense que c'est une situation de probabilité très faible, mais non nulle, mais dont les dégâts vont être disproportionnellement trop gros.
Je crois que les chiffres officiels disent -6% de PIB.
Oui, et là encore, quand ils disent ça, ils disent, mais tout en disant qu'ils ne sont pas sûrs qu'il n'y ait pas d'autres effets qui peuvent s'aggraver. Donc on est dans une incertitude totale parce que c'est quelque chose de peu souhaitable d'abord. Hein. Mais sinon, il y a quand même... parce que les choix alternatifs ne sont pas terribles non plus à cette négociation qui doit aboutir, hein, espérons-le, avant les dates butoirs. Parce que les choix... Il y a deux possibilités. L'une, c'est de faire semblant que ça n'existe pas et de continuer à dépenser. Il y a un article 14 dans la Constitution qui dit que la dette ne doit pas rentrer en situation tendue. Mais ça nous amène dans des problèmes juridiques. Donc, à mon avis, pour la volatilité de marché, on est parti pour plus longtemps que, si vous voulez, la négociation aujourd'hui. Et puis, sinon, on peut faire effectivement une ligne de financement entre le Trésor et la Fed. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est pas génial. Zimbabwe est passé par là, par exemple. Donc, c'est des situations qui amènent normalement de l'hyperinflation, notamment dans des situations de départ d'aujourd'hui, qu'on voit une situation plutôt où l'inflation n'est pas quand même sage. Donc, ce n'est pas souhaitable. Donc, quelque sorte, la façon qu'on a d'aborder cet événement, c'est de dire que la tension actuelle est un mal nécessaire. Donc, ça viendra avec une volatilité de marché.
Pour faire réfléchir.
Et surtout pour se mettre d'accord. Hein, donc, pour arriver à aboutir à un consensus et une entente.
Cette crise sur le plafond de la dette, cette tension sur le plafond de la dette qui s'ajoute à toutes les questions de contraction du crédit qui inquiètent la Réserve fédérale. Ça veut dire que les problèmes s'accumulent aux États-Unis ?
Oui, mais j'ai envie de dire d'abord, le crédit effectivement est en chute. C'est pas que aux États-Unis, on le voit aussi en Europe. Sure. On voit toutes ces enquêtes sur les conditions d'octroi du crédit, que ça soit aux États-Unis ou en Europe. C'est une image de la résultante du resserrement du crédit, ce qui est tout à fait souhaitable pour, en tout cas, les banques centrales souhaitent resserrer le crédit justement pour arriver
à éteindre un peu la machine, quoi.
Oui, ouais. C'est le canal de transmission basique de la politique monétaire. Donc ça, c'est le point souhaité par les banques centrales. Le sujet, c'est de dire jusqu'où ça va, hein, parce qu'on ne peut jamais gérer cette baisse. Ceci pour la Réserve fédérale a une connotation supplémentaire parce qu'on en sort, espérons-le à peine, d'une crise de confiance dans le secteur bancaire, comme on l'a vu, où on a eu donc baisse aussi des dépôts, ce qui n'est pas le cas en Europe quand même, donc baisse des dépôts, baisse du crédit et une forte thésaurisation, si vous voulez. Ça, c'est quelque chose. On a l'impression aujourd'hui que la Réserve fédérale a bien géré la crise de confiance dans le système. On reste quand même attentif pour voir s'il y a d'autres maillons faibles dans le système. Enfin, c'est quand même quelque chose qui nous tient quand même bien réveillés. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'ils ont géré et que désormais, cette chute du crédit est quelque chose qu'elles souhaitent afin d'atteindre ses objectifs d'inflation. Tout en sachant qu'il faut qu'elle jauge de niveau où elle va tomber. Ceci nous fait conforter un peu dans notre opinion que tout ça va se traduire par une récession cyclique dans les trimestres à venir aux États-Unis qui devrait lisser un peu les sujets, notamment l'inflation.
Voilà pour ces deux, entre guillemets, gros sujets plus américains. Un mot aussi de la Chine. On a eu des statistiques ce matin décevantes. Longtemps, on s'est dit, c'est bon, et c'est ce qu'on s'est dit sur les marchés, longtemps. La Chine redémarre, on va reprendre et finalement, c'est pas tout à fait le cas. Quelle est votre lecture sur ce plan ?
C'est vrai que c'était, en démarrant l'année, c'était la bonne nouvelle. Enfin, s'était dit, bon.
On disait, mais rassurez-vous, la Chine arrive.
C'était compliqué aux États-Unis, c'était compliqué en Europe. On entrevoyait d'ailleurs des récessions tout début d'année, hein, au départ. On l'a repoussé, on le voit, les résultats des entreprises sont bons, la situation est plutôt meilleure qu'attendue des deux côtés de l'Atlantique pour l'instant. Et on attendait effectivement la Chine et le fort rebond. Alors, le rebond, il y a quand même eu lieu. Hein. Le premier trimestre, les données de PIB étaient très fortes. Hein. Maintenant, séquentiellement, on voit que ça s'essouffle Je ne suis pas sûre que c'est si étonnant que ça. Nous aussi, on a eu, donc, après les fermetures, des gros rebonds sur la réouverture, sur le trimestre d'après, puis après quelque chose qui se cherche, enfin, qui cherche un peu le niveau d'activité. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais effectivement...
Finalement, ils se comportent comme nous, quoi.
Bah, je pense un petit peu, si ce n'est que, effectivement, il y a quand même le gros sujet, des gros sujets structurels et structurants en Chine, notamment sur le secteur immobilier, où là, effectivement, on voit que la machine ne démarre pas du tout. Donc, ceci devra appeler quand même...
Mais pas de vraie inquiétude pour le moment,
bah, pour le moment, séquentiellement, on voit que le deuxième trimestre commence plus bas, donc on doit arriver à quelque chose de plus bas. Mais enfin bon, généralement, on attendait plutôt une reprise séquentiellement qui devrait prendre un peu du temps et qu'en fait, c'était la deuxième moitié de l'année qui devrait se faire. Donc pour l'instant, je pense que personne ne révisera ses prévisions de croissance de PIB sur les données du mois d'avril, tout en regardant, comme toujours, on regarde, hein, mais en se disant toujours, la deuxième moitié de l'année devrait voir tout ça. Et autre chose peut-être à dire, toutes ces sets de données qui viennent mensuellement comme ça, qui sont les ventes au détail, la production industrielle, l'investissement, etc., souvent obscurcissent ils obscurcissent la grosse partie qui est le secteur des services, hein. Et dans les services, on entend quand même des données sur place. D'accord. Ça reprend les restaurations, le tourisme, etc. On voit qu'il y a quand même un fort mouvement.
Allez, on termine par un petit détour en Europe, chez nous. Comment vous la voyez, notre zone? J'ai envie de vous dire que pour aujourd'hui, c'est raté l'optimisme, moins 10,7 pour le ZU. Alors bon, le ZU, il est toujours
un petit peu volatile.
Voilà.
Mais, le ZU vous dit presque le marché, qu'est-ce qu'il pense en fait.
Ouais,
le marché pense qu'il sait pas trop où il va.
Et donc il a pas le moral. Bon, ok.
Oui, il a pas le moral. Donc je pense que ça c'est. Alors quand même, le marché devrait être content parce que il a quand même vu des très bons résultats d'entreprise sur la. Enfin, par rapport aux attentes, en tout cas,
bien sûr.
Au premier trimestre. L'activité se tient plutôt bien. Je pense que là où l'attentisme vient du fait qu'au sein de la BCE, on voit bien qu'il y a un petit peu de remous. Hein. Donc on a, à la différence de la Réserve fédérale, la BCE ne peut pas se reposer sur des très bons résultats sur le reflux de l'inflation. Donc, quand on regarde la Fed, on voit que, notamment cet indicateur-là d'inflation sous-jacente hors prix du loyer, on voit qu'il y a une forte décélération. On est à 1% en rythme annuel. Donc, là, ça y est. Donc, elle est plutôt.
On n'a pas ces chiffres-là en Europe.
Mais oui, on n'a pas ces chiffres-là en Europe. Donc, du coup, vous avez au sein de l'Europe des tensions. Certains qui pensent qu'il faut y aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin pour calmer ces ardeurs-là. Et puis d'autres qui se disent, attention, regardez le crédit, notamment notre point de début. Il va falloir stopper tout ça parce qu'il y a une situation. Et c'est assez intéressant parce que ça révèle quelque part cette. Pas dichotomie, mais en tout cas différenciation au sein de l'Europe entre le Nord et le Sud, où pour l'instant, pour le coup, on a le Nord qui a une inflation plus élevée et le Sud qui est un peu en retrait. Peut-être une réminiscence
auquel on n'est pas habitué. Ouais.
Oui, mais c'est peut-être une réminiscence justement de la crise souveraine où les comportements se sont ajustés, on est beaucoup plus prudent. Enfin, et donc il n'y a pas eu cet emballement, somme toute, alors que les deux côtés Nord et Sud souffrent de la même tension, si vous voulez, sur le marché du travail. Hein.
Merci beaucoup, Irina. Merci. Irina Topasseri et Aksayem qui nous a lu la conjoncture actuelle. À très bientôt. Le marché parisien, pour le moment, il est en toute petite hausse, plus 0,02%, 7419 points.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Et on accueille à présent Frédéric Cros. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Association française du Family Office, l'AFO. Et on entend de plus en plus parler de ces Family Office. Qu'est-ce que c'est qu'un Family Office d'abord?
Alors un Family Office, c'est une organisation de personnes au service des patrimoines des familles, que ce soit une famille ou plusieurs familles. En fait, le client typique d'un family office, c'est une famille qui a généralement encore sa société d'exploitation et un nombre important d'actionnaires qui en sont soit à la 3, 4, 5, 6e génération, soit des nouvelles fortunes et quelquefois des chefs d'entreprise qui ont vendu une partie de leur société et qui se retrouvent avec un patrimoine à gérer. Et donc, ils ont à ce moment-là l'opportunité d'avoir à leur côté un conseil ou une structure qui est un family office. Ce family office peut avoir vraiment un rôle très, très, très transverse. C'est un chef d'orchestre qui peut à la fois discuter avec des avocats, avec des notaires, avec des fiscalistes, évidemment avec des banquiers privés, et qui est vraiment au service de la famille qu'il conseille, et qu'il va ensuite l'aider à trouver les meilleurs prestataires pour l'aider à préserver son patrimoine et à le transmettre. Il y a une notion de long terme lorsque l'on travaille avec un family office. Et il y a deux grandes catégories, les monos qui ne travaillent que pour une famille, et les multi.
D'accord. Cette différence, parce que quand on se plonge dans ce monde du family office, on tombe assez souvent sur ce mono-multi.
Oui.
C'est juste la question de savoir si on s'occupe d'une seule ou de plusieurs familles.
Voilà.
Quoi.
Un mono est dédié à une seule famille. Voilà. Un multi, en fait, c'est un mono à temps partagé.
Quelle est finalement la différence, j'avais envie de vous dire, entre un family office, vous avez prononcé une banque privée, ou un CGP, quoi. Un family office, c'est une espèce de super CGP, en quelque sorte.
Non, alors le family office, il est, et ça c'est très très important, et on se bat pour ça, il est rémunéré par la famille, et quasiment entièrement rémunéré par la famille. Et donc, il faut créer un alignement d'intérêts entre le family office, le family officer, et la famille. Et pas se retrouver, si vous voulez, le family office est acheteur de prestations de services. Un banquier privé va avoir tendance à un peu promouvoir ses produits maison. Un CGP, on le sait, reçoit assez souvent, de façon importante, des rétrocessions. Donc, quelque part, il peut y avoir un conflit d'intérêts. Dans le family officer, lui, il est vraiment aligné. Il y a une relation de confiance qui doit se créer entre le family officer et la famille. Et c'est vraiment le représentant de la famille rémunéré par elle. Que ça soit d'ailleurs un mono, c'est évident, ouais. Et un multi, c'est d'autant plus.
Vous nous avez rapidement dit, effectivement, qu'on y recourait pour gérer sa fortune, pour gérer aussi son patrimoine, pour parler de long terme, de transmission. Tout le monde peut en bénéficier, entre guillemets. Ça à quel prix, j'ai envie de dire, un family officer? Parce qu'on comprend bien que c'est pas destiné au premier épargnant.
Tout à fait. En fait, il faut effectivement avoir, je pense, en tout cas, si on parle d'un mono family office, un patrimoine, j'allais dire, libre, c'est-à-dire on sort la société d'exploitation, on sort l'immobilier d'habitation ou secondaire, d'environ 80 millions d'euros. Sachant qu'ensuite, on peut utiliser des leviers pour accroître cette poche. Pour un multi, je pense que c'est plus autour d'une quinzaine. Mais une fois encore, chaque famille est différente, chaque family office est donc différent, et chaque family office, en fait, va adapter, ne remplit pas toutes les missions, et quelquefois peut travailler pour des patrimoines plus petits, mais sur des aspects de gouvernance, sur des aspects un peu différents que des aspects d'allocation stratégique d'actifs.
Juste, vous nous avez dit, tiens, on sort la société d'exploitation, on sort l'immobilier. C'est-à-dire que sur quels investissements, sur quels actifs, entre guillemets, travaillent ou s'intéressent les family office?
Alors, il y a, et ça c'est depuis quelques années, il y a vraiment un attrait de plus en plus important pour le private equity. On a réalisé, comme on le fait tous les ans, une enquête avec la société Opinionway, dont les résultats sont sortis assez récemment, et clairement, le private equity aujourd'hui représente 21% du portefeuille des family office. Sachant qu'il y en a une part importante d'ailleurs d'investissement direct dans des sociétés, environ 12%, et 9% à travers de fonds. Et ce chiffre est en fait même un peu bas à l'échelle internationale. On se rend compte, et j'ai eu une étude très récente qui avait dû être faite, y inclut des family office anglo-saxons et américains, le private equity représentait environ 26%. Donc ça, c'est clair. Tout ce qui est investissement...
Finalement, ils vous demandent d'investir dans ce qu'ils connaissent aussi.
Exactement.
Dans ce qui a fait leur fortune, une société d'exploitation.
Exactement. Il y a un ADN d'entrepreneur, ils ont envie de s'aider entre entrepreneurs, et la bourse, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement volatile, et c'est vrai que souvent les familles cherchent à préserver leur patrimoine. Elles ont déjà un risque important assez souvent dans leur société d'exploitation, et donc le family office leur permet de créer une diversification géographique ou en termes de produits, et d'être beaucoup plus stable et de préserver correctement leur patrimoine.
Voilà donc pour ces family office qu'on connaît un petit peu mieux. Après, il y a cette AFO aussi que vous présidez aujourd'hui, qui représente donc les intérêts, il y a quoi, des histoires de formation, des histoires de réglementation. À quoi ça sert l'AFO?
Alors, donc l'association française du family office, qui a été créée il y a plus de 20 ans par Bernard Camblin, est une association qui regroupe en fait trois collèges. Il y a les mono-family office, il y a les multi-family office et également les professionnels. Et donc, l'AFO a comme rôle de, si vous voulez, de faire la promotion de ce métier.
D'accord.
Et de l'expliquer. Parce que, et ça, c'est une des choses pour lesquelles je me bats ardemment.
Et pour laquelle vous êtes là ce matin.
Et peut-être pour laquelle je suis là ce matin, c'est que ce terme, et je vous en remercie d'ailleurs, c'est que ce terme est souvent galvaudé. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des family officers sans s'en rendre compte. Et ça m'est arrivé de voir d'accueillir des adhérents.
Des monsieur Jourdain, quoi.
Voilà, des monsieur Jourdain qui rendaient ses services à une famille qui était là depuis, et qui ont découvert, et ils étaient très contents de découvrir qu'ils étaient en fait family officers. Et puis il y en a d'autres qui, sous prétexte d'utiliser le côté haut de gamme, s'arrogent ou s'affublent du nom de family officer. Et ça me gêne un peu parce que on n'est pas une carte platinium. Évidemment, on rend des services haut de gamme et sur mesure. Mais voilà, certains veulent en profiter. Donc ça fait partie des éléments pour lesquels je me bats. La deuxième chose, c'est que c'est un lieu d'échange. C'est-à-dire que les problématiques, même si, comme je vous l'ai dit, chaque family office et chaque famille différente, il y a très souvent des problématiques similaires. Il y a des jeunes générations qui vont vouloir qu'il y ait de l'impact, qu'il y ait de l'investissement durable. Il y a le private equity, on aime échanger entre nous, entre pairs, on se dit, voilà. Il y a de très forts échanges entre family office. En fait, c'est un vieux métier, mais qui est en train de se développer très fortement. Et
vous avez rappelé tout à l'heure quelques statistiques qui viennent de l'étranger.
Oui.
C'est-à-dire que, voilà, c'est pas, on peut pas raisonner en franco-français.
Non.
On est obligé d'être ouvert, tant en termes de technique, de savoir-faire.
Tout à fait.
D'expérience, etc., avec l'international, l'AFO aussi.
Et tout à fait. L'AFO est très, très. Et d'ailleurs, on vient d'entamer la création, ça fait 3 ans maintenant, de l'IFO, International Federation of Family Office, avec des partenaires italiens. Et on va continuer à développer ça à l'échelon, en tout cas européen. Et la semaine dernière, j'étais aux États-Unis et j'ai rencontré là-bas des family office finlandais, suisses. Et avec qui on a décidé de nouer des contacts et effectivement on a très souvent des problématiques à échanger. On fait ça de façon confidentielle. On sait qu'on représente des familles et donc on est très vigilant sur la discrétion et sur la confidentialité. Néanmoins, on a beaucoup d'échanges entre nous.
Eh bien, on en sait plus ce matin sur ces family office et sur cette association qui les représente. Merci d'être passé nous voir.
Merci,
Cédric. On vous retrouvera d'ailleurs le 21 novembre prochain à BFM Patrimoine, l'événement. Vous nous accompagnerez.
Sûrement.
Et on en est absolument ravis.
Merci beaucoup, Cédric.
Frédéric Cros, donc le patron de l'AFO ce matin sur BFM Business. À très bientôt. Dans un instant, un coup d'œil technique sur le marché. C'est Romain Daubry qui nous accueille chez Bourse Direct.
BFM Business, l'émission 100% placement, BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
11h30, c'est la dernière demi-heure de BFM Patrimoine qui commence par une virée technique sur les marchés grâce à Romain Daubry qui, depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct, suit la séance pour nous. On vous retrouve, Romain, avec un marché qui, depuis quelques minutes, semble avoir opté pour la baisse.
Oui, toujours cette idée de consolidation à un trading range, donc on va alterner probablement pendant quelques séances encore hausse et baisse, faute de driver fort, puisqu'on a passé la grosse séquence banque centrale et puis résultat des entreprises. Donc toujours cette zone large, 7277, 7489 sur le futur CAC 40, avec une zone plus étroite, un triangle symétrique qu'on a identifié, 7307 pour la séance en bas, 7451 en haut. Avec une médiane située entre 7369 et 7383. Donc, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, eh bien, le biais est plutôt haussier. Mais là, on a rebondi puissamment d'ailleurs dans cette zone-là ce matin. Et puis, pour l'instant, on y retourne doucement. C'est plutôt un marché sans tendance, mais une absence de tendance solide quand même, puisqu'on accumule, si on regarde des indices comme les indices américains, sous des niveaux de résistance majeurs. Le S&P, on a évoqué plusieurs fois ce niveau ensemble, 4132 points, 4132, 4137. On a clôturé pile dans la zone hier soir. est toujours sous ce fameux gap baissier du 22 août dernier. Et donc, une zone qui est le plafond de verre à déborder, mais on n'en est pas loin non plus, on ne se retourne pas. Alors qu'on a une consolidation un petit peu plus marquée sur fond d'attente, pourquoi pas, mais on n'a pas de signaux de retournement baissier fort. Et donc, nous, on en profite pour réaliser des petits écarts acheteurs ou vendeurs, mais là, pour l'instant, vendeurs sur le futur CAC 40. Sans chercher de gros écarts, encore une fois, ça nous empêche pas d'être constructif sur le marché, d'être investi. Et puis on remarque qu'il y a quand même une activité assez forte sur les small et mid caps. Je vous en propose quelques-unes sur lesquelles on est rentré, pour lesquelles il y a des mouvements intéressants qui se mettent en place. Gerber, Elior, Guillemot ou Carbios encore, qui offrent des configurations intéressantes. Ça signifie qu'il y a une activité qui est peut-être en train de se compenser sur le par rapport aux grosses capitalisations sur ces petites et moyennes. Et donc il y a des choses à faire. Il y a manifestement encore de l'intérêt sur le marché. Il y a de belles recoveries parmi ces valeurs-là possibles. Un autre actif qui nous intéresse, c'est l'argent entre 23,80 et 24. C'est un niveau d'accumulation de long terme aussi. Donc on est rentré aussi à nouveau sur l'argent.
Eh bien, voilà quelques idées d'investissement, pourquoi pas décelées par la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain Daubry, merci beaucoup, Romain. Bonne séance sur ce marché et ce CAC 40 qui perd 0,08%, 7412 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Aujourd'hui, dans les coulisses du patrimoine, on va parler de la Société Civile Immobilière, la fameuse SCI, souvent présentée comme un incontournable de la gestion de patrimoine. Cependant, a-t-elle toutes les vertus qu'on lui attribue ? Est-ce qu'il n'y a pas des pièges à détenir un bien en SCI ? Pour y répondre, Valérie Montel. Bonjour Valérie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Lombard Odier. Quand on investit dans un bien immobilier, pour le louer par exemple, est-ce que la SCI est une solution pour défiscaliser notamment les revenus locatifs?
Alors c'est une bonne question parce que les revenus locatifs sont les revenus qui sont les plus imposés en France puisqu'ils subissent les prélèvements sociaux à 17,2% quel que soit leur montant, et en plus on doit payer son taux d'impôt sur le revenu, donc avec un taux marginal, voilà, on peut arriver à plus de 62% d'impôt. Donc est-ce que la SCI permet de réduire cette facture? En fait, ce qui permet de réduire l'impôt sur le revenu sur les revenus locatifs, ce sont les charges qu'on peut déduire, notamment les travaux. Or, les règles de déduction qu'on acquiert un bien directement ou par une société civile, ce sont les mêmes. Donc, on ne pourra pas déduire plus par une société civile. Et puis, si les charges dépassent les revenus et qu'on a des déficits, ce sont exactement les mêmes règles qui gouvernent l'imputation des déficits sur d'autres revenus.
Donc, à l'IR, entre guillemets, aucune différence entre SCI ou détention directe.
Exactement, vous faites bien de préciser à l'IR parce que la société civile immobilière peut opter pour l'impôt sur les sociétés et là, la donne change complètement.
Donc c'est le régime fiscal de la SCI qui détermine son intérêt ou pas?
Et alors, oui et non, vous allez voir, puisque quand la société civile immobilière opte pour l'impôt sur les sociétés, eh bien, les revenus ne sont plus soumis à l'impôt sur le revenu, mais à l'impôt sur les sociétés, au taux de 25%. Ça permet de déduire un amortissement. Le bien est amortissable, ça veut dire qu'on peut déduire un pourcentage de la valeur du bien chaque année. Donc, on peut effectivement arriver à défiscaliser les revenus pendant une certaine période. Donc, ça va faciliter l'acquisition d'un bien, parce que vous avez plus de revenus. Avec les économies fiscales, vous avez plus de revenus. Donc, si vous avez fait un emprunt, ça va permettre de rembourser plus facilement cet emprunt. Mais il y a des inconvénients en contrepartie de cet avantage. C'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Eh bien, il y a un inconvénient à la revente du bien. D'accord. Parce que la plus-value qui va être réalisée lors de cette revente, dans une société civile soumise à l'impôt sur les sociétés, elle va aussi être soumise à l'impôt sur les sociétés à 25%. Tous les amortissements qui ont été déduits vont aussi être réintégrés à la plus-value et taxés à 25%. Ah oui. Et ce n'est pas tout, parce que la plus-value a été réalisée par la société civile immobilière. Et donc, si les associés veulent percevoir le prix de cession, eh bien, la société va devoir leur redistribuer. Et ça aussi, ça entraîne une fiscalité à 30%, voire 34% quand on excède certains seuils. Bon.
Donc, c'est pas 100% gagnant, même si quand on additionne les deux, on s'éloigne du 62% que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui,
dans certains cas.
Oui, ça va dépendre en fait si on réalise beaucoup de plus-value, à la revente en fait.
Donc, on a parlé IS, impôt sur les sociétés. On a parlé IR, impôt sur le revenu. Et l'IFI dans tout ça?
Alors, l'impôt sur la fortune immobilière, comme son nom l'indique, frappe l'immobilier, mais toute forme d'immobilier, que cet immobilier soit détenu directement ou à travers une société. Quand c'est détenu par une société, ça veut dire qu'on va devoir déclarer dans son IFI la valeur des parts. Alors, le fait de détenir en SCI peut justifier une décote. Cette décote, elle peut aller de 5 à 20%. Récemment, il a été admis qu'on puisse cumuler une décote de 10% pour illiquidité et qui est liée à la détention de parts, et 10% pour les difficultés de gestion qui peuvent être liées à la détention d'un bien en commun. Effectivement, une décote ne s'applique jamais automatiquement. Il faut quand même
faut la justifier ouais.
par une situation de difficulté. S'agissant de la décote et de la SCI, il y a un cas dans lequel c'est pas du tout avantageux d'acheter en SCI, c'est quand on achète une résidence principale. Parce que là, pour l'IFI, on bénéficie normalement automatiquement d'une décote de 30%. Mmh. Or, en SCI, on n'y a pas droit.
Vous nous dites faut déclarer la valeur des parts, donc la valeur de la société.
Exactement.
Sans faire de comptabilité très poussée, si la SCI est une dette, enfin un emprunt...
Voilà, exactement. Quand une SCI acquiert un bien immobilier, elle peut s'endetter. Et dans ce cas-là, l'emprunt va venir en déduction de la valeur des parts et réduire la valeur qui va être soumise à l'IFI. Quand l'IFI a été mis en place, qu'elle a remplacé l'ISF, évidemment, le législateur a anticipé les situations dans lesquelles les contribuables seraient tentés de contourner les règles de l'IFI, de réduire leur base à l'IFI en utilisant l'endettement. Alors, il a édicté des règles de limitation de la déduction des dettes, notamment pour les crédits in fine. Vous savez, ces crédits dont on rembourse le capital à l'échéance du crédit. Ces crédits in fine, on peut les déduire, mais progressivement, au fil du temps, on peut de moins en moins les déduire. Cette règle, elle s'applique quand on acquiert en direct, mais aussi quand on acquiert en SCI. C'est aussi la même chose pour les comptes courants d'associés, c'est-à-dire, vous savez, quand les associés de la société prêtent de l'argent à la SCI pour qu'elle acquiert un bien immobilier, eh bien, ces comptes courants ne sont pas, qui constituent une dette pour la société, ne sont pas nécessairement déductibles. Il faut justifier d'un intérêt fiscal. Qui ne soit pas fiscal, pardon.
Oui, qui ne soit pas fiscal. Ouais.
Voilà, exactement.
Bon, ok, donc ça c'était l'IFI. Quand on continue à tirer la bobine fiscale, on a tout ce qui concerne la succession, la transmission.
Voilà, l'héritage, exactement.
Ouais. Dans ces cas-là
Alors, on ne calcule pas différemment des droits de donation, des droits de succession sur des parts de SCI que sur des biens détenus directement. Effectivement, il peut y avoir une décote. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est quand on combine l'utilisation de la SCI, un endettement et une donation. C'est-à-dire qu'au moment où la SCI acquiert un bien par endettement, comme vous l'avez dit, la valeur des parts est faible, voire nulle. Et là, c'est le moment finalement de transmettre ses parts aux enfants, parce qu'il n'y aura donc pas de droit de donation, où ces droits de donation vont être vraiment négligeables. Et donc, toute l'augmentation de valeur future du bien va revenir aux enfants. Si le bien est loué, les loyers qui vont permettre de rembourser l'emprunt et qui vont donc augmenter la valeur des parts, eh bien, toute cette augmentation, elle va elle aussi revenir aux enfants. Donc, c'est très intéressant de transmettre les parts d'une SCI endettée au moment de l'acquisition d'un bien à ses enfants.
Voilà donc pour la problématique fiscale. Est-ce que ça veut dire que cette SCI, si on rentre dans un cadre de ce qu'on a raconté et que c'est intéressant, est-ce qu'il faut la créer dès le départ, au moment où on acquiert un bien, ou on peut le faire aussi en cours de route, entre guillemets, on est déjà propriétaire d'un bien et on crée une SCI
Alors, on peut le faire, mais ça va être plus compliqué parce qu'il va pouvoir y avoir des conséquences fiscales. Par exemple, ça va entraîner l'imposition de la plus-value. Et puis, il n'y aura pas d'endettement. Donc, si on veut transmettre les parts, il faudra payer les droits de donation sur la totalité de la valeur.
D'accord. Pour un bien de famille, une résidence secondaire, enfin quelque chose comme ça, c'est particulièrement avantageux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut y penser aussi dès le départ ?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la SCI pour détenir des résidences secondaires, et c'est une bonne chose parce que ça va faciliter la transmission par la donation aux enfants et puis la gestion de l'indivision lors de la succession. Mais il y a un très gros inconvénient à bien avoir en tête, c'est que si cette résidence est louée pendant les vacances, donc forcément, comme c'est une résidence secondaire, elle va être louée en meublé, bah là, le régime fiscal change totalement, c'est-à-dire qu'on passe à l'impôt sur les sociétés. Même si on a loué une seule fois en 20 ans, bah, notre SCI peut passer à l'impôt sur les sociétés. Et ça, c'est un gros inconvénient, parce qu'au moment de la revente, bah, il va y avoir la fiscalité que je vous ai décrite. Ouais. Et là, l'administration fiscale va pouvoir procéder à des redressements. Donc, il faut vraiment faire...
Imaginez ne pas devoir revendre, quoi.
Ou alors, il faut vraiment avoir ça en tête et étudier d'autres modalités de détention pour la résidence secondaire si on veut louer.
Donc, SCI, mais avec modération.
Voilà, exactement. Ça a beaucoup d'avantages. Hein, ça facilite la transmission. C'est quand même l'outil privilégié quand on veut acquérir un bien en commun. Mais ce sont des raisons qui ne doivent pas faire oublier les moins bonnes raisons. La SCI, ça a un coût de comptabilité. Il faut bien avoir une vie sociale. Et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'effet pervers qu'on n'ait pas anticipé.
Valérie Montel et l'ingénierie patrimoniale de Lombard-Odier. Merci d'être passé nous voir.
Merci.
À très bientôt. Le marché parisien qui reste très hésitant. -0,07, 7412 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et pour répondre à toutes vos questions comme prévu, c'est Mireille Wimbert qui est de retour en plateau. Prête, Mireille ?
Prête, Cédric.
Pour le magazine Capital. Et cette question que vous envoie Lisa. Que faut-il vérifier quand on veut louer sa résidence secondaire ?
Eh bien, écoutez, Valérie Montel vient de le dire. Il faut vérifier qu'on ne l'a pas acheté sous forme de SCI.
Ah.
Pour les raisons qu'elle évoquait. Alors, vous allez me dire, je le sais si je l'ai acheté sous forme de SCI. Mais ce que nous disent les notaires, les avocats fiscalistes, etc., au moment où les personnes achètent un bien immobilier et notamment une résidence secondaire, souvent, en effet, ils le font sous forme de SCI parce qu'ils veulent conserver ce bien dans la famille pour le transmettre. Et donc, à ce moment-là, notaire et avocat leur disent exactement ce que vient de dire Madame Montel, leur disent surtout, vous ne louez pas ce bien. Et puis, 10 ans après, 15 ans après, les enfants sont plus grands, ils viennent plus, un des deux, du coup, peut être au chômage, les charges ont augmenté, que sais-je. Il y a des millions de raisons de se dire, j'ai besoin d'un petit peu de revenus, la résidence secondaire pourrait tout à fait être utilisée pour avoir un petit complément. Et bien non, surtout pas. Donc, qu'est-ce qu'elle dit ? Je l'ai acheté sous forme de SCI. Quand on va en vacances, en général, quand on loue une résidence secondaire, on n'emmène pas ses meubles avec soi. Donc, c'est nécessairement une location meublée, ouais. Une résidence secondaire. Une location meublée, c'est du commercial. SCI, c'est société civile immobilière. C'est pas une société commerciale. La SCI, c'est fiscalisée à l'impôt sur le revenu. Si vous faites une location de votre résidence secondaire, le régime bascule, comme elle le disait, à l'impôt sur les sociétés. Alors, les conséquences, il y en a plusieurs. La première, c'est déjà que si c'est une activité commerciale, vous êtes censé, quand vous allez dans votre résidence secondaire, payer un loyer. Sinon, c'est un acte anormal de gestion. Ça, c'est la première conséquence, légère. Ensuite, on a un deuxième problème, et c'est ce qu'elle évoquait, c'est qu'on passe à l'impôt sur les sociétés, puisque c'est une activité commerciale. Et ça, c'est gênant. Pourquoi ? C'est gênant quand on vend. Pourquoi ? Parce que si moi, je suis un particulier, je vends mon bien immobilier, résidence secondaire ou pas, je vais avoir des abattements pour durée de détention. Et donc, au bout d'un certain temps, au bout de 30 ans, je suis exonéré, je suis tranquille. Je paye pas d'impôt sur le revenu, sur la plus-value. Très bien. Si ça passe en impôt sur les sociétés, vous allez me dire, mais enfin, le taux de l'IS, il est plus agréable. Donc, c'est bien. Mais non. Parce que là, c'est la base imposable qui va être beaucoup plus importante. Parce que quand on fait de l'impôt sur les sociétés, on fait aussi de l'amortissement. Donc, imaginez, vous avez acheté le bien 500 000 euros, votre résidence secondaire, vous la vendez 1 million. La plus-value, elle est de 500. Si vous êtes à l'impôt sur le revenu, en fonction de la durée de détention, vous ne payerez pas grand-chose, si vous l'avez détenu suffisamment longtemps. Si vous êtes à à l'impôt sur les sociétés. La base imposable, ça va être beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'on dit, bah, les 500 000 de départ, la valeur initiale, on les a amortis. Ça veut dire qu'on a enlevé, ça veut dire que ça vaut plus rien, ça vaut zéro quasiment à la fin. Donc, votre plus-value, vous la comptez sur le prix de vente moins zéro, c'est le prix de vente, en fait. Donc, vous payez plein pot sans abattement de l'impôt sur les sociétés. Là-dessus, c'est énorme. Là, l'administration fiscale se régale, elle vous redresse. Donc, s'il vous plaît... Si vous avez acheté une résidence secondaire via une SCI, encore une fois, c'est avantageux pour tout un tas de raisons, notamment pour transmettre, mais c'est tout à fait déconseillé si vous voulez louer.
Mais du coup, on ne peut pas louer ou il faut casser la SCI ?
Non, on ne peut pas louer. Ouais. On ne peut pas louer. Il vaut mieux dans ce cas faire... Il y a des SARL de famille, ça s'appelle. Là, c'est beaucoup plus facile. Ou alors, si vous achetez en direct, là, il n'y a pas de souci, quoi.
Question de Jean-Yves, il a 59 ans et il est au chômage. Normalement, ce chômage le prenait en charge jusqu'à ses 62 ans. Et il se demande ce qu'il en est avec le recul de l'âge de départ en retraite. Va-t-il devoir, entre guillemets, retourner bosser, nous dit-il ?
Oui. Bah oui, les gens de 59 ans, finalement, quand ils arrivent au chômage, ils ont droit à 3 ans. Donc ça les emmène normalement aux 62 ans d'âge de départ. Et même mieux que ça, l'assurance chômage vous dit, si quand vous arrivez à vos 62 ans, vous n'avez pas tous vos trimestres, je vous prolonge jusqu'à ce que vous ayez tous vos trimestres pour que vous puissiez partir à taux plein. Donc ça, c'est une règle qui est très protectrice pour les seniors qui sont au chômage au moment de la retraite. Alors, il y a des conditions pour pouvoir profiter de ce truc-là, de cet allongement du chômage jusqu'au taux plein. D'abord, il faut être affilié à 62 ans et depuis au moins un an à l'assurance chômage. Il faut avoir été affilié au moins 12 ans à l'assurance chômage et il faut disposer d'au moins 100 trimestres validés l'assurance vieillesse. 100 trimestres, ça veut dire qu'il faut avoir cotisé pendant au moins 25 ans. Dans ces conditions-là, vous êtes prolongé. Là, avec la réforme, qu'est-ce qui va se passer ? On passe à 63 ans, il y a plus de trimestres, etc. Et là, le gouvernement nous dit, pas de panique, on a un décret aujourd'hui qui nous dit, à 62 ans, c'est prolongé. Dans ce décret, il n'y a pas de référence à l'âge légal, donc ça continue à être prolongé. Donc, aucune crainte pour les gens qui, à 59 ans, 60 ou 62, sont au chômage et qui n'ont pas tout leur taux plein, ça va continuer. L'assurance chômage va prendre ça en charge. C'est d'ailleurs ce qu'on compte aussi dans la réforme des retraites dont on parlait tout à l'heure avec Gaël. Vous savez, il va y avoir des conséquences sur les comptes sociaux, les autres comptes sociaux, de l'assurance chômage. Ben, ça, c'en est une, par exemple.
Bon, donc Jean-Yves, il reste calme.
Oui, il reste calme. Détente, tout va bien se passer. Bon. Il ne va pas être obligé de retourner travailler.
On passe à la question que vous envoie Agnès. Dans la déclaration immobilière que l'on doit faire, dans la partie pré-remplie, nous dit-elle, le fisc a plus de mètres carrés que moi pour mes biens immobiliers. Et du coup, elle se demande si sa taxe d'habitation va augmenter.
Oui, ça c'est une vraie, vraie question. Donc cette déclaration immobilière, c'est nouveau, vous devez la faire avant le 30 juin. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura vraiment pas de sanctions cette année. Ça c'est sûr. Il y a une amende de 150 euros si vous ne la faites pas. Et là, détente, pareil. Pas d'amende cette année, le fisc sera bienveillant.
Cette année, elle est informelle.
Cette année, elle est informelle. Alors effectivement, la difficulté, c'est que dans cette déclaration immobilière, il y a des choses qui sont pré-remplies. Avec les bases cadastrales, calfisques, etc. Et il se trouve que c'est pas calculé de la même manière. Donc effectivement, facialement, quand vous regardez, vous dites, mais attends, ma maison n'a pas 5 pièces, elle en a 4. Et puis j'ai pas 200 mètres carrés, j'en ai que 180. Donc il y a des choses comme ça qui sont gênantes. Et c'est d'autant plus gênant qu'on se dit, mais attends, si le fisc a des données qui sont supérieures aux miennes, je vais payer plus de taxes d'habitation, je vais payer plus d'impôts, c'est naturel. Alors non, pas nécessairement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, vous allez dans la rubrique foire aux questions. Vous allez voir comment calcule le fisc. Parce que par exemple, pour la surface, lui, il calcule de mur à mur. Loi carré, il s'en fiche. Donc, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, vous allez, c'est embêtant, mais il faut voir dans la foire aux questions comment calcule le fisc. Vous comparez avec chez vous. Et s'il y a concordance, tout va bien. Vous n'avez rien besoin de faire. Effectivement, votre valeur à vous est peut-être inférieure à la valeur du fisc supérieure, mais en fait, vous parlez de la même chose. Mais ça, encore une fois, il faut le vérifier dans la foire aux questions. Donc là, pas de panique, il n'y a rien à faire. Vous pouvez éventuellement... C'est même pas la peine de signaler au fisc. S'il y a vraiment une différence encore, là, vous ne pouvez pas modifier... Sur la déclaration immobilière, on peut modifier le locataire, l'occupation du logement, mais on ne peut modifier que ça. On ne peut pas modifier le nombre de pièces, les mètres carrés. Donc là, il faut utiliser votre messagerie sécurisée, celle que vous utilisez d'habitude pour envoyer des messages au fisc, et vous leur signaler. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors si je le signale et qu'ils ne répondent pas, qu'est-ce que je fais le 30 juin ? Alors, le fisc nous dit, c'est pas parce que vous avez posé une question que vous ne devez pas faire votre déclaration quand même. Donc, vous la faites avec des données fausses, puisque vous ne pouvez pas les changer dedans. Et puis, vous signalez, vous faites un message parallèlement à l'administration fiscale qui vous répondra si effectivement il y a une erreur, si effectivement elle compte comme vous ou pas. Enfin, après, c'est un dialogue qui s'installe avec l'administration fiscale et vous vous mettrez d'accord sur le nombre de pièces, la surface, etc., etc.
Ils ont quand même été très forts de ne pas nous prendre la loi carrée qu'on retrouve partout.
Mais c'est, oui, mais ce n'est pas les mêmes données. Ils n'ont pas les mêmes données. Ils ont peut-être des données qui sont plus anciennes, je ne sais pas. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, il y a eu tellement de gens qui ont envoyé des démarches au fisc qu'ils ont fini par faire un genre de document publicitaire avec toutes les questions vrai-faux. Et c'est vrai que ça. Enfin, on connaît l'appétence des Français pour l'immobilier, la crainte de payer plus d'impôts, effectivement. Donc là, on a à peu près des réponses et surtout. L'administration fiscale sera bienveillante, donc pas d'inquiétude cette année.
Bon. On me dit en régie qu'il y a un de nos réalisateurs truquistes qui, pour qui c'est l'inverse.
Ah, c'est l'inverse, ouais. Ça c'est plutôt bien.
Question de Benjamin, qu'est-ce qu'on risque si on sous-évalue la valeur de ses biens à l'impôt sur la fortune immobilière ?
Eh bien, on risque
d'abord,
évidemment...
D'abord, c'est pas bien.
C'est pas bien du tout. Donc effectivement, il faut déclarer ses biens immobiliers, enfin il faut faire une déclaration d'IFI quand vos biens immobiliers ont une valeur supérieure à 1,3 million d'euros. Si vous minimisez, ce qui est, ça a l'air quand même d'être un sport national.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe? Bah vous pouvez être redressé, ça c'est sûr. Mais il y a très très peu de contrôle spontané. Alors moi je suis allée faire une enquête au sein de la DGFiP là du contrôle fiscal, vous savez dans ce fameux service high-tech qui croise les données etc. Donc je leur ai demandé précisément ce qu'ils croisaient et ils m'ont dit que pour l'IFI maintenant ils surveillaient de très près, donc depuis 3 ans, parce qu'ils ont pareil, ils ont des formules mathématiques qui leur permettent, ils connaissent vos biens, de connaître à peu près la valeur de vos biens et ils matchent ça avec ce que vous avez déclaré ou pas à l'ISF. Donc ils nous disent que la sous-déclaration ils contrôlent depuis 1 an et que la non-déclaration, parce qu'il y a des gens qui minimisent tellement pour pas arriver au seuil de 1,3 et pour ne rien pas faire de déclaration d'IFI.
Mais parce qu'on rentre à 1,3. Mais après, on est imposé à partir de 800 000 et quelques.
C'est ça. Mais pour les gens qui vraiment minimisent et qui ne font pas de déclaration, ça, ils le contrôlent avec leur croisement de données là depuis 3 ans. Pour autant, les avocats fiscalistes, les notaires me disent, écoutez, franchement, pour le moment, pas tellement de contrôles spontanés. Il peut y avoir des contrôles plus importants au moment de la vente d'un bien immobilier. Si vous avez déclaré très peu et que vous vendez très cher, ça va pas.
Parce qu'on en parlait au moment de la création d'une SCI.
Peut-être, oui. Ça, à chaque fois qu'il y a des modifications de structure, ça peut changer. Et puis, il y a un cas, pour le coup, mais encore une fois, c'est vraiment pas systématique. Mais il y a un cas, nous disait, ça c'est Arlette Darmon, qui est patronne du groupe Monassier, du groupe notarial à Paris, qui me disait qu'en cas de succession, c'est automatique. Là, on vérifie. Donc ça, c'est si le défunt a minimiser la valeur de ses biens immobiliers ou s'il l'a tellement minimisé qu'il n'a pas fait de déclaration IFI, là les héritiers ont intérêt à rectifier le tir, à faire des déclarations rectificatives. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si votre défunt a sous-estimé, il avait fait une déclaration d'IFI, mais en sous-estimant la valeur de ses biens, il faut faire déclaration rectificative sur les 3 dernières années plus l'année en cours, donc sur 4 ans. Vous payerez quoi? Bah, vous payerez l'impôt éludé, donc la différence. Vous payerez les intérêts de retard de 2,40 par an et vous payerez une pénalité de 10%. Maintenant, si votre défunt était plus souple, c'est qu'il n'avait carrément pas fait de déclaration d'IFI alors qu'il aurait dû le faire. Et ben là, la prescription est plus longue. Il faut faire des déclarations rectificatives sur 6 ans plus l'année en cours avec toutes ces mêmes pénalités. Et heureusement, j'allais dire, ce que vous allez payer au fisc à cette occasion, au moment des rectifications, va être déduit du patrimoine taxable à la succession. Et donc, encore heureux, vous ne payerez pas de droits de succession sur ce qui a été pris à la succession pour payer ces droits, ces redressements fiscaux.
Bon. Mais on paye toujours moins cher si on a été à la manœuvre que si c'est le fisc qui vous redresse.
Ah oui, parce que si c'est le fisc qui vous redresse après, c'est trop tard. Les droits de succession, ils sont payés, donc vous payerez en plus, vous avez payé plein
pot. On gagne toujours à contacter le fisc en premier.
Absolument.
Et pas bon,
surtout quand on est héritier, franchement, on peut pas. C'est pas de la mauvaise foi, j'hérite.
Il vous reste 1 minute pour Sylvie. J'ai voulu anticiper et déjà déposer ma demande de retraite, mais avec la réforme, je vais devoir travailler 3 mois de plus. Comment faire?
Ah oui, ça, c'est la première génération concernée. C'est ceux qui sont nés entre septembre novembre et décembre 1961. Ces gens-là, théoriquement, au 1er septembre 2023, ils ont 62 ans, ils partaient à la retraite. Ben là, ils peuvent plus puisqu'ils ont 3 mois de plus à faire. Alors, il y en a qui sont des petits malins qui se sont dit, si je fais ma déclaration
tout
pour partir
hein.
tout de suite, peut-être je vais passer entre les gouttes. Eh bien non. Ouais. Eh bien non. Mais alors maintenant, c'est embêtant parce que si vous avez fait votre déclaration effectivement pour partir à la retraite, votre demande de retraite, je veux dire, aux caisses de retraite, ben vous ne répondez plus aux conditions et peut-être vous aurez des décotes. Donc, c'est fâcheux. Si vous n'avez pas, vous voyez, de tous
et
les trimestres.
On peut suspendre le truc ?
Oui. Ah. Alors, vous pouvez faire une lettre à vos caisses de retraite, une lettre pour annuler votre demande. Vous n'aurez pas besoin de refaire une demande complète après, mais voilà. Vous annulez votre demande. La question, c'était jusque quand ? Alors, le texte disait, vous pourrez le faire dans les 2 mois de la publication du décret, mais c'est un peu flou puisque le décret n'est pas paru. Donc, les gens sont un peu dans l'expectative, c'est un peu fâcheux. Et là, le ministère du Travail a dit, finalement, on va faire une autre règle parce que ça, c'est trop flottant. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre une date limite. Donc, vous aurez certainement, la date limite n'est pas encore fixée, jusque fin octobre de cette année pour annuler votre demande de départ à retraite si vous êtes dans cette condition-là, donc né entre septembre et décembre 61 et que vous aviez déjà fait une demande de départ à la retraite à votre caisse de retraite.
Mireille Wimbert, pour Capital, a répondu à toutes vos questions. Merci Mireille.
Merci Cédric.
À très bientôt, dans un instant. C'est 90 minutes business et on retrouve donc Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Cédric.
Votre
bonjour
sommaire du jour.
Eh bien, on va s'intéresser à une AG qui va être un petit peu mouvementée aujourd'hui, celle de BNP Paribas. Des ONG se sont invitées à l'Assemblée Générale de la plus grande banque de la zone euro. On sera en direct sur place. Une interview exceptionnelle de Bruno Le Maire, alors que le ministre de l'économie va présenter son projet de loi pour l'industrie verte. Elle a été réalisée en exclusivité pour BFM Business. Et puis les syndicats sont attendus ce soir un par un à Matignon, reçus par la Première ministre Elisabeth Borne. Première réunion depuis l'adoption au forceps de la réforme des retraites. Que peuvent-ils attendre ? On en débat avec Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès.
C'est à suivre dans une poignée de minutes. Le CAC, lui, perd 0,04%, 7415 points. Et nous, on se donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.